Bernard Evran, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management. On va parler avec vous de marché et de perspectives sur ces marchés. Sujet du moment depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est le sujet grec. Quels ont été selon vous le principal impact sur les marchés? Ça a été plus de volatilité?
Alors c'est le sujet depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années maintenant. Alors à l'heure où on parle, il faut quand même préciser qu'on attend un référendum dont on ne connaît pas les résultats. À la limite, à l'heure où on parle, on n'est même pas sûr que le référendum va se tenir, puisqu'on avait eu un projet de référendum il y a quelques années qui ne s'était jamais tenu. Mais bon, à l'heure actuelle et depuis quelques semaines où on a toutes ces négociations qui sont en cours, finalement les réactions sont assez modérées, que ce soit sur la devise, l'euro, que ce soit sur les marchés actions, que ce soit voire même sur les taux d'intérêt. Finalement, les réactions sont assez modéré, assez petite, on va dire, par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, par rapport à ce qu'on avait eu en 2012. Il semble que maintenant, soit les investisseurs se sont un peu habitués, soit ils se sont quasiment lassés, ils regardent ailleurs. En tout cas, le premier semestre s'est terminé malgré toutes ces inquiétudes autour de la dette grecque. Le premier semestre s'est terminé sur une note très très positive sur l'ensemble des marchés actions européens. Et puis les tensions sur les taux ont finalement été assez limitées et ont vraisemblablement assez peu à voir avec la dette grecque. Donc finalement, peu de volatilité par rapport à ce qu'on aurait pu craindre et par rapport à ce qu'on avait eu il y a 3-4 ans maintenant.
Ça veut dire que les investisseurs restent peut-être plus focalisés sur, par exemple, la croissance économique en Europe, le fait que ça va mieux, c'est pas encore parfait, mais loin de là, mais ça va mieux en Europe par exemple.
Voilà, c'est vraiment les facteurs qui soutiennent pas mal les marchés. Sur les marchés actions, on a quand même, là c'est vraiment simple, parce qu'on a des bénéfices des sociétés cotées en zone euro qui sont revus à la hausse en permanence. Ça c'est une grande nouveauté, hein. On n'avait pas ça sur les dernières années, c'était perpétuellement revu à la baisse. Maintenant on est arrivé à la moitié de l'année, les bénéfices, on continue à les attendre de mieux en mieux pour l'année 2015, voire pour l'année 2016. Évidemment, toujours soutenu par les facteurs qu'on connaît sur les devises, sur l'énergie, également, et un tout petit peu par la demande intérieure, mais ça reste vraiment minime. Et puis finalement, sur les autres aspects particuliers obligataires, on a toujours une Banque Centrale Européenne qui continue à acheter ses 60 milliards de dettes tous les mois, qui crée des pénuries, on le sait, sur certains pans du marché obligataire, en tout cas des emprunts d'État. La Banque Centrale Européenne aujourd'hui vient de publier dans un petit coin d'un gros rapport une clause de ses programmes d'achat qui était assez soit pas annoncé auparavant, soit passé inaperçu, qui est que la Banque Centrale Européenne peut acheter des emprunts, de la dette, des obligations, pas d'État, mais de sociétés dans lesquelles un État de l'Union Européenne détient une part importante. Donc ça peut comprendre par exemple pas mal de producteurs d'énergie, des gens qui distribuent de l'eau, des services publics, etc., etc., qui sont cotés, et finalement ça élargit pas mal le panel de dettes qui peut être acheté par la Banque Centrale Européenne, puisqu'on sait qu'elles ont un problème pour acheter suffisamment d'emprunts d'État, et ça fournit à nouveau un soutien supplémentaire au marché obligataire, qui, oui c'est vrai, ils ont été un petit peu chahutés sur les derniers mois, mais finalement on n'a pas rien qui ressemble à un crack, loin de là, ça ressemble plutôt à une pause pour le moment. Donc, et sur les marchés actions et sur les marchés obligataires, des soutiens qui sont assez importants.
Oui, alors donc ça, je dirais, ça peut rassurer d'un certain nombre d'investisseurs. On verra ce qui va se passer là-dessus. Si on va sur les États-Unis, là-dessus, il y avait des questions sur l'économie américaine qui avait l'air de bien performer, effectivement, qui continuait. Mais on voit que les investisseurs sont toujours indécis sur les taux, sur la hausse de taux. On a même vu 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, on y voit plus clair ou ça reste encore un point d'interrogation?
Ouais, alors la situation elle est assez différente aux États-Unis par rapport à l'Europe. À votre question, est-ce qu'il y a un point d'interrogation sur les taux? Alors pour une fois, la Banque Centrale Américaine, la Réserve Fédérale, a été très claire. Ils ont toujours l'art de faire des phrases qui peuvent être interprétées de multiples manières. Là, pour une fois, ils ont été très clairs. En 2015, on aura au moins une hausse des taux. Peut-être deux, c'est possible, mais au moins une. Bon, sachant que la prochaine réunion, c'est en septembre, donc finalement, septembre, octobre, novembre, voilà, c'est quelque part dans les quatre derniers mois de l'année 2015 qu'on aura une hausse des taux, éventuellement une deuxième. Donc ça, on a une incertitude en gros qui est élevée, on a juste des questions sur à quel moment. Donc ça, c'est bien, et c'est pas mal justifié par le marché de l'emploi qui est vraiment très très ferme. Ça commence à vraiment ressembler au plein emploi, ce qu'on a là-bas. On a des salaires qui commencent à monter, un pouvoir d'achat qui commence à monter, même si c'est tout neuf et assez timide. Et on peut dire que c'est un petit peu la situation miroir de ce qu'on a en zone euro, où on a ce marché de l'emploi qui devient tendu, en fait. On a, on a un taux de chômage qui est très très faible, on a des salaires qui commencent à se tendre, donc on a vraiment la demande d'emploi qui est en déséquilibre par rapport à l'offre. Et au contraire de ce qu'on a en zone euro, c'est vraiment les bénéfices des sociétés, eux, qui calent un petit peu. Même ils calent tellement qu'on les attend quasiment flat à plat sur l'année 2015, pas de croissance. Ça, à nouveau, c'est une grande différence par rapport aux années précédentes où on avait cette situation-là sur les bénéfices en Europe. Et maintenant, c'est aux États-Unis. Donc, une économie en général et un marché de l'emploi très ferme aux États-Unis. En revanche, des résultats des sociétés nuls au sens strict, c'est-à-dire pas de progression. Et d'ailleurs, ça s'est remarquablement bien traduit dans le marché actions. Les résultats ne se traduisent pas toujours dans le marché actions, mais cette année, c'est remarquable. Sur les 6 premiers mois de l'année, on a des actions américaines qui ont fait quasiment rien, c'est-à-dire comme les bénéfices des sociétés. Donc ça, à nouveau, c'est plutôt sain. Et pour le moment, les perspectives de hausse des taux sont très, très bien encaissées par les marchés en général.
Si on élargit sur les pays émergents, eux, ils ont été affectés au cours des derniers mois par ce qui s'est passé avec la baisse du pétrole. Il y a eu l'appréciation du dollar, donc il y a eu plusieurs effets qui se sont parfois conjugués. Du côté de l'investisseur, bon, on fait l'exception du marché chinois, de la bulle chinoise qu'on a pu voir. Est-ce qu'il y a des opportunités ou c'est compliqué d'investir sur les pays émergents ?
Alors, on parle des marchés émergents, voilà, on fait toujours une espèce de bloc comme ça à nous parce qu'on est, on n'y est pas en direct, ça représente encore une petite partie des capitalisations boursières, des marchés actions. Bon, néanmoins, voilà, on a toujours cette distinction, enfin, on a un certain nombre de distinctions, mais on a toujours la distinction entre producteur de matières premières et consommateur de matières premières qui est importante. On a des prix du pétrole qui... C'est peut-être un sujet dont on parle moins qu'à une certaine époque, mais on n'a jamais eu autant de production de pétrole dans le monde. Semaine après semaine, les États-Unis publient les stocks de pétrole. Vous savez, ils n'ont pas le droit d'exporter le pétrole, les Américains. Donc ils n'en ont jamais produit autant, mais la consommation ne monte pas aussi vite que la production, donc ils ont des énormes réservoirs, des stocks de pétrole qui restent bloqués un peu partout dans le pays, et ces stocks de pétrole n'ont jamais été aussi pleins, aussi élevés depuis qu'on tient les statistiques. Bon. Les producteurs de pétrole américains produisent de plus en plus, je crois que les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial, mais ils ne consomment pas assez pour tout absorber. En face, on a les autres producteurs plus traditionnels qui peuvent être au Moyen-Orient, qui peuvent être les Russes, etc., qui eux aussi pompent au maximum. On a des résultats des négociations entre l'Iran et les États-Unis qui sont en train de se profiler et qui pourraient faire donner des perspectives à nouveau d'augmentation de la production iranienne. Bon, tout ça pour dire qu'on a vraiment cette production de pétrole qui monte en permanence, et la consommation qui monte pas du tout aussi vite, donc des prix qui sont sous pression. Des producteurs de matières premières au sens large, que ce soit les métaux industriels ou bien les hydrocarbures, l'énergie, le gaz, le pétrole, etc. Tous ces producteurs qui ont quand même des vrais soucis par rapport à équilibrer leur compte, hein, et les sociétés qui sont sur ces secteurs-là aussi ont beaucoup de mal. Bon, ça c'est vraiment, disons pour faire vite, largement Amérique latine et Russie. En face de ça, l'Asie, qui est elle plutôt consommatrice. Et là, effectivement, vous avez parlé d'une bulle sur les actions chinoises. On a eu des mouvements absolument... des performances à trois chiffres, hein, plus de 100% en quelques mois sur la Chine. Puis c'est en train de revenir en ce moment. Si on enlève ça, on a vraiment, on a vraiment des marchés qui sont pas chers en Asie émergente. Et d'ailleurs, en Asie pas émergente aussi, puisque le Japon est pas très très cher. À l'exception de quelques marchés type Chine où on a vraiment des comportements d'un autre type, on a des choses assez intéressantes à faire dans certains marchés asiatiques, Japon et émergents en général.
Le mot de la fin, vous restez investi sur les actions ?
On reste investi. Alors pour être clair, on a constitué un peu des poches de cash. Quand les tensions sur la Grèce ont augmenté, parce que ça ressemble un peu à quelque chose d'aléatoire. Hein. On voit très bien que sans nouvelles réelles supplémentaires, les marchés peuvent prendre ou perdre quasiment 10% en quelques jours sans qu'il y ait vraiment rien de nouveau. Donc ça repose purement sur du sentiment. Donc c'est vrai qu'on a quand même eu un premier semestre complètement incroyable sur les marchés actions, des performances à deux chiffres partout. Donc c'est vrai qu'on par précaution, on s'est un peu retiré. En revanche, il nous semble qu'il y a des vrais facteurs de soutien. On a une vraie intention de se réinvestir à un moment dans l'été.
Merci Bernard Hébrand d'avoir été avec nous.
Merci.